Bonjour à chacun. Merci pour avoir choisi ce dernier chant qui est une bonne introduction à notre temps de message. C'est vrai que nous sommes le jour des rameaux. Alors, le message ne va pas être centré sur ce que Jésus a vécu ce jour des rameaux où il a été accueilli en roi à Jérusalem il y a bientôt 2000 ans. Mais ce message est centré sur Jésus-Christ. Et c'est vrai qu'après avoir abordé le sujet sur Dieu, il y a maintenant 1 et 2 mois, les anciens vous proposent 2 messages sur le thème de Jésus-Christ. Alors, j'aborderai aujourd'hui la question du plan de Dieu, ce plan de Dieu qui a été réalisé en Jésus-Christ, ainsi que la révélation progressive du salut en Jésus-Christ que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Et Jean-Paul ensuite développera le sujet de la coexistence de l'humanité et de la divinité dans la personne de Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ est le message central de la révélation de Dieu aux hommes par la Bible. À la fin de son évangile, Jean nous dit, c'est en Jean 20 au verset 31, à ce sujet, je voulais afficher les versets que je lis, et puis j'ai complètement oublié ça au dernier moment. Alors, si quelqu'un veut les notes, il n'y a pas de souci, un photocopieur dans le bâtiment, n'hésitez pas à me les demander à la fin du culte. Donc nous lisons Jean 20, le verset 31. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » C'est donc là le but de l'Évangile, et plus généralement le but aussi de la Bible. « Que les hommes croient que Jésus-Christ est le Messie et qu'ils soient réconciliés avec lui. » Maintenant, la question du plan de Dieu. C'est vrai que nous avons tout lieu de penser que Dieu qui a organisé la création que nous connaissons de façon si ordonnée, n'a pas laissé au hasard une question aussi importante que le salut de l'homme. De plus, les Écritures nous montrent qu'il y a effectivement un plan de salut bien précis et bien organisé. Paul nous dit « J'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est vrai, par sa prescience, Dieu, avant de créer l'homme, savait que celui-ci tomberait dans le péché. En créant l'homme, il prépara donc, oui, ou on peut dire aussi, il avait déjà préparé un plan de rédemption lorsqu'il nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. De même que Jésus-Christ existait avant Adam, le plan de Dieu existait aussi avant la chute. Christ est de toute éternité. Il est Dieu et le plan de salut n'est pas un plan B. Il n'est pas la réponse improvisée suite à la chute. Le plan de salut en Jésus-Christ est la manifestation de la grâce de Dieu pour tous les hommes. Et, malgré tout, il n'enlève en rien notre responsabilité de répondre personnellement chacun à cette grâce qui nous est offerte. Jésus-Christ est l'aboutissement du plan de Dieu. En pensant à l'œuvre de Jésus-Christ dans la Bible, on pense tout naturellement au Nouveau Testament, puisqu'il commence par les récits des 4 évangiles qui nous racontent sa venue parmi nous. Mais en lisant l'Ancien Testament, nous voyons déjà que l'accomplissement du plan de Dieu pour l'homme se réalise en Jésus-Christ. L'Ancien Testament, en fait, c'est un peu comme un zoom toujours plus puissant, un zoom toujours plus gros, qui va de la création jusqu'à l'annonce et la venue prochaine de Jésus-Christ. C'est en fait un panorama de la révélation de Dieu que nous voyons dans l'Ancien Testament. Nous avons vu tout à l'heure que la Bible a été écrite afin de nous faire connaître Jésus-Christ, le Messie, et qu'en croyant nous ayons la vie en son nom. Si on prend du recul et que l'on regarde un petit peu ce panorama que nous donne l'Ancien Testament, depuis la création jusqu'au prophète, on remarque que la révélation converge vers la venue de Jésus-Christ et l'œuvre de salut qu'il a accomplie. Et c'est vrai que le plan de Dieu, en fait, il apparaît déjà dès la Genèse, déjà dès les premiers chapitres de la Bible. La Genèse s'ouvre sur le récit de la création. Ensuite sont mentionnées les conditions de la relation entre Dieu et l'humanité. L'humanité qui était représentée alors par Adam et Ève. Puis, le péché fait son apparition et entre dans le monde par la désobéissance d'Ève et puis ensuite celle d'Adam. Et nous voyons là la première référence à la réalisation du plan de salut préparé par Dieu. Tout de suite après la chute, en Genèse 3,15, Dieu s'adresse au serpent. Le serpent qui était l'instrument de Satan pour séduire Adam et Ève. Et Dieu lui dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dieu dit clairement ici que le lignage de la femme, en l'occurrence Jésus-Christ, écrasera la tête de Satan qui a utilisé le serpent comme instrument de séduction pour tromper Adam et Ève. Dieu affirme clairement ici que Jésus-Christ sera vainqueur de Satan sans pour autant indiquer de quelle façon précise cela se produirait. Puis ensuite, dans l'Ancien Testament, nous voyons toute cette question du peuple mis à part. C'est vrai que le fil conducteur principal de l'Ancien Testament, c'est ensuite celui du choix d'un peuple mis à part, le peuple de Dieu, les Juifs, et ainsi que de leur relation avec Dieu. Et c'est lors de l'exode de l'Égypte que Dieu met en place une alliance afin de définir sa relation avec le peuple élu. Et Dieu promet alors un prophète, le grand prophète qui conduira le peuple quand Moïse ne sera plus là. Et je vous invite à lire deux versets dans Deutéronome 18, les versets 18 et 19. En fait, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse. « Je ferai surgir pour eux, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui les lui en demanderai compte. Ensuite, il y a eu toute une série de prophètes qui se sont succédés après Moïse. Cependant, Jésus-Christ est effectivement le grand prophète. Et on peut en être sûr et certain parce que Étienne, je ne sais pas si vous vous rappelez, Étienne, le premier martyr dont il est question dans les Actes, Étienne, après avoir été arrêté, lorsqu'il a fait tout son grand discours aux Juifs et aux Pharisiens, Étienne, après avoir été arrêté, il a attribué l'accomplissement ultime de cette promesse à Jésus-Christ. Mais en même temps que Dieu donne cette promesse, nous voyons, donc en parallèle de cette promesse, nous voyons la mise en place d'un système élaboré, un système composé d'un lieu de culte, d'une prêtrise, et ainsi que de sacrifices divers, dont les sacrifices d'expiation du péché. Par ce système, le peuple entretenait sa relation avec Dieu et la restaurait chaque fois qu'elle était brisée par le péché. À partir de là, l'histoire du peuple juif est en forme de dents de scie ou de mouvements de vagues, des allées-venues, comme ça. Dès l'entrée dans le pays promis, l'histoire du peuple élu est une histoire d'apostasie, c'est-à-dire d'éloignement, de jugement, de repentance et de restauration par Dieu. Il y a comme un cycle qui se répète en boucle. En plus des prophètes et des prêtres, il y a ensuite une nouvelle figure dirigeante qui apparaît dans le peuple d'Israël. Un roi est donné au peuple pour qu'il règne sur lui. Après Saül, qui a été le premier roi, la monarchie est ensuite fermement établie par David. Et en 2 Samuel 7, au verset 16, Dieu révèle à David par le prophète Nathan, « Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton règne sera affermi pour toujours. » Et ce n'est qu'en Jésus-Christ, fils de David, que ce trône sera affermi pour toujours. Puisque, après David, les péchés du peuple et le jugement de Dieu ont atteint leur point culminant avec l'exil babylonien et la chute de la monarchie. C'est dans cette situation de déportation que se développe l'espérance prophétique d'un jour de restauration de la faveur de Dieu, de la venue d'un nouveau roi et de la descendance de David et du retour du peuple dans son pays. Et nous lisons dans Jérémie 31, le verset 31. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Et au verset 33, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il s'agit ici de la nouvelle alliance que Dieu promet. On se souvient aussi de la prophétie d'Ésaïe 11. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe. Un rejeton de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Puis ensuite, on voit dans l'Ancien Testament que Dieu se choisit un reste d'où le Messie viendra. C'est vrai que le peuple choisi de Dieu a failli, il a failli à l'alliance conclue et donc à la mission reçue de Dieu. Et ce peuple est en déportation. Donc il a été en déportation à Babylone, mais Dieu se choisit un reste. C'est-à-dire un groupe minoritaire qui, ayant échappé au jugement destructeur, représente la communauté élue d'Israël. C'est de ce reste que sortira le Messie, Jésus-Christ. Et Dieu se plaît à utiliser ce qui est petit, pour réaliser son plan d'amour. Dans Michée, il est question de Bethléem. Bethléem, la ville d'où Jésus est né. Bethléem, d'où Jésus est venu. Bethléem, qui est une petite ville en fait. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Dans Ésaïe, il est aussi question d'un enfant, d'un petit bébé. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est vrai que Dieu utilise souvent les choses faibles pour confondre les fortes. En Philippiens 2, nous lisons les versets 6 à 8. Jésus-Christ, donc ces versets en fait nous montrent que Jésus-Christ n'échappe pas aussi à cette règle. Jésus-Christ, qui est de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Il y a aussi ensuite d'autres passages dans lesquels Jésus-Christ est annoncé comme glorieux, comme le roi. Et puis, il y a toute la question de comprendre le récit de l'Ancien Testament à la lumière de Jésus-Christ. En fait, de changer un petit peu de lunettes lorsqu'on lit l'Ancien Testament et de le voir vraiment à la lumière de Jésus-Christ. En fait, l'Ancien Testament ne fait pas référence directement à Jésus-Christ. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ n'est pas le sujet principal. Mais il faut bien comprendre que la révélation est progressive. Jésus-Christ étant le point culminant, l'aboutissement de l'Ancien Testament. En revanche, l'Ancien Testament nous montre constamment des références indirectes ou des symboles très forts et très précis en lien direct avec Jésus-Christ. Et je vous en donne un par exemple. Par exemple, de la même façon qu'il y a quatre évangiles, il y a dans le tabernacle quatre couleurs que l'on retrouve constamment et qui présentent des aspects précis de Jésus-Christ, aspects que l'on retrouve dans les quatre évangiles. Ces quatre couleurs et ces quatre aspects sont le pourpre, symbole de la royauté, que nous retrouvons dans l'évangile de Matthieu parce qu'il présente Jésus comme le roi. L'écarlate ou le rouge vif, c'est la couleur du sang que l'on retrouve dans le sacrifice. Et Marc présente Jésus comme le serviteur qui donne sa vie. Ensuite, il y a le blanc qui est en fait le symbole de l'homme. Et Luc, qui est médecin, présentait dans son évangile Jésus dans son humanité. Et enfin, la quatrième couleur que l'on retrouve vraiment très couramment dans le tabernacle, la quatrième couleur qui est le bleu. Le bleu, symbole de la royauté et de la divinité. L'évangile de Jean présente Jésus comme le Fils de Dieu. Donc c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a comme ça des parallèles très forts entre l'Ancien Testament qui nous montre toute la vie du peuple de Dieu et Jésus-Christ. Et en fait, l'Ancien Testament prépare la venue de Jésus-Christ. L'Ancien Testament peut être lu comme une chronique du déroulement de l'histoire du salut qui culmine avec la venue du Christ et qui constitue donc la première partie de l'ensemble de l'histoire chrétienne. Les apôtres eux-mêmes reconnaissent que l'Ancien Testament prépare la venue du Messie, la venue de Jésus-Christ. Et nous lisons dans 1 Pierre, au chapitre 1, les versets 10 à 12, « Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message. » Et la fin de ce verset que j'aime beaucoup, « dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. » Les apôtres aussi reconnaissent que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Et je vous lis les premiers versets de l'Épître aux Hébreux, oui. « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. » Je vous invite donc à nous rappeler que dans son immense amour pour nous, Dieu a mis en place le plan de salut en Jésus-Christ avant même de créer l'homme. Rappelons-nous aussi que Jésus-Christ est le point culminant, l'aboutissement, l'accomplissement de la révélation donnée par l'Ancien Testament. Voilà, je laisse maintenant la place à Jean-Paul.
La définition de la personne du Christ est un sujet qui, au fil de l'histoire religieuse, a souvent été l'objet de controverses, de doctrines de toutes sortes. Comment pouvait-il à la fois être Dieu et homme? Était-il tout Dieu et tout homme? Ou alors était-il un Dieu à l'apparence humaine? Il est important d'être au clair à ce sujet. Un des textes importants, fondateurs de notre foi moderne, est sans aucun doute le symbole de Chalcédoine, qui date de 451. Ce n'est pas d'aujourd'hui, hein. À ce moment-là, les responsables religieux ont étudié les textes bibliques et ont posé les fondements suivants, je vous le dis tel qu'il est écrit. « Suivant donc les saints pères, nous enseignons tous unanimement que nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité et le même consubstantiel à nous selon l'humanité, en tout semblable à nous, sauf le péché, avant les siècles engendré du Père selon la divinité, et au dernier jour le même engendré pour nous et pour notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité, un seul même Christ, Fils du Seigneur. » Il y a ensuite un développement que je ne vous donne pas. Et la fin du texte nous dit « Un Christ ne se fractionnant ni ne se divisant en deux personnes, mais en un seul et même Fils, unique engendré, Dieu Verbe, Seigneur Jésus-Christ. » On a les trois quarts du texte qui a été, en 451, posé comme fondement sur la réelle identité du Christ. Voilà donc des affirmations claires dans le langage de l'époque. Mais la Bible n'est pas en reste. Et plusieurs textes sont aussi clairs et autant de repères pour nous. Nous avons lu ce texte de Philippiens 2, où il nous est dit « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. » Jésus-Christ était pleinement homme et pleinement Dieu, à la fois en une seule personne, l'est resté et le restera pour toujours. Alors je vais développer, avec beaucoup de versets que je vous lirai, les deux aspects, notre Jésus-Christ pleinement divin et notre Jésus-Christ pleinement humain. Les textes bibliques rappellent souvent la divinité de Jésus-Christ, et notamment par les noms révélateurs qui lui sont donnés. On a d'abord le mot Dieu, le nom Dieu, quoique plutôt pour nous aussi, utilisé pour parler du Père, il est souvent attribué à Jésus dans l'Écriture. Jean 1, 1, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Romains 9, 5, issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toute chose, virgule, Dieu bénit éternellement. C'est le nom qu'on lui donne, Dieu bénit éternellement. On a le texte d'Hébreu que Philippe nous a lu aussi, qui parle du Fils qui a été établi héritier de toutes choses, par lequel aussi le monde a été créé. C'est le rapport que Philippe faisait avec la Genèse. On a bien sûr le nom Seigneur, qu'on connaît nous beaucoup mieux. On s'adresse au Christ comme Seigneur et on se l'attribue comme Seigneur de nos vies. C'est sans doute celui qui relie le plus Jésus à la divinité. Le Seigneur est ici celui qui a autorité et autorité divine. C'est la traduction grecque textuelle de Yahvé, dans la version de la Septante, par exemple. Et puis, l'annonce faite au début de ce Nouveau Testament, par exemple, dans Luc 2, 18, c'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur, le Maître de toutes choses. Et puis, dans Luc toujours, la déclaration d'Élisabeth, mère de Jean-Baptiste, qui dira à Marie, avec qui elle était relativement intime, elle l'appellera la mère de mon Seigneur. Et puis un troisième terme qui est employé aussi, et qui est important, qui nous rappelle tout à fait l'élection du peuple d'Israël, c'est quand Jésus s'affirme en étant « je suis » ou « je le suis ». C'est le même mot qu'avait donné Dieu à son peuple et à Moïse pour répondre quand, si le peuple me demande de qui je tiens ça, tu diras je tiens ça de je suis. Je suis m'a envoyé. Donc ces trois mots nous rappellent très fermement, il y a d'autres noms encore pour le Christ, mais ces noms en tout cas nous rappellent très fermement que le Christ est d'origine divine, est divin, est Dieu. Jésus, de même, possédait tous les attributs divins dont nous avons parlé avant pour Dieu. Juste un petit rappel, l'omnipotence, par exemple. Quand le Christ calme la tempête, il nous est dit, il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Les hommes assis dans le bateau furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et même la mer ? Deuxième point, c'est l'éternité, comme l'éternité de Dieu, puisque Jésus-Christ est Dieu. Et il est dit de Jésus-Christ dans Jean 8, 58, en vérité, je vous le dis, c'est le Christ qui parle, avant qu'Abraham fût, je suis. Ce n'est pas j'étais, je suis Dieu, avant qu'Abraham fût. On a aussi le rapport avec la création, ici. On a un deuxième point qui est l'omniscience, la connaissance totale de Dieu de toutes choses, de Jésus-Christ de toutes choses, dans le Nouveau Testament, où le Christ parle et dit à ses disciples « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? » C'est celui qui va connaître toutes choses et qui va connaître la pensée de chacun, qui va connaître notre pensée. Et tout à l'heure, en chantant ce chant, en regardant les autres avec nos yeux, c'était aussi l'idée de que le Christ puisse faire connaître sa pensée et que cette pensée puisse sortir de nos yeux aussi. Jean 6, 64, Jésus savait dès le commencement, qui était ce qui croyait et ce qui ne croyait pas, et qui était celui qui le livrerait. Pleine connaissance du plan de Dieu, pleine connaissance parce qu'il est Dieu. Les disciples diront dans Jean, au chapitre 16, verset 30, il nous est relaté cela, « Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » La souveraineté de Dieu, de même, quand Dieu dira au paralytique, « Tous tes péchés sont pardonnés. J'ai le pouvoir de te pardonner tous tes péchés. J'ai cette puissance divine de te pardonner tes péchés. » Et puis enfin, peut-être, entre autres, aussi le fait que le Christ se laisse adorer, soit là pour être adoré, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Dieu. Jésus, sur terre, n'a pas renoncé à ses attributs divins. On pourrait dire il a tout posé, il n'était plus du tout divin. Non, il n'a pas renoncé. Et le texte que Philippe nous a lu de Philippiens 2 nous explique qu'il a pris la forme et l'attitude du serviteur. Son renoncement, son dépouillement sont ici les signes de son obéissance et de son humiliation devant et dans le plan de Dieu le Père. Il est resté jusqu'au bout, pleinement divin dans son obéissance. Colossiens 1, 19 nous dit « Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. » Donc il est important de garder à l'esprit que ce Christ venu sur la terre était d'un premier côté pleinement Dieu, avec tous les attributs divins. Et puis la deuxième partie, c'est l'humanité de Jésus. Et l'humanité de Jésus se conjugue d'abord par sa naissance, par cette naissance d'une vierge. Dieu n'a pas envoyé son fils simplement comme ça, parachuté. Vous savez, comme on parachute un ministre dans une circonscription avant les élections, où il n'a rien à voir. Il arrive là, il ne connaît personne, il sait peut-être ce qu'il y a dans la circonscription, mais voilà, on le parachute là. C'est pas du tout ce qui s'est passé ici. Le Christ est totalement homme car il est né homme. Il reste Dieu, mais il prend sur lui la nature humaine. Il naît d'une vierge, c'est ce que nous gardons. Mais prenons l'autre côté, il naît d'abord d'une femme. C'est comme cela qu'il devient homme et qu'il participe à notre nature humaine. C'est l'arrivée d'Emmanuel, de Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Et ce point est terriblement important, particulièrement par rapport à cette naissance. Cette naissance atteste que le salut vient pleinement de Dieu qui est arrivé par le Christ, engendré par l'Esprit, mais par le corps de Marie. Ce n'est pas une action surnaturelle, ce n'est que par une action surnaturelle et divine que ce salut pouvait advenir. Cette naissance a rendu possible en une seule personne, l'union de la pleine divinité et de la pleine humanité. Il fallait que Jésus naisse homme, mais aussi de Dieu, pour que le Père puisse envoyer son Fils dans le monde pour nous sauver et pour nous convaincre. Cette naissance rend possible que Jésus soit né homme sans être marqué par le péché. Par la naissance virginale, la transmission du péché originel est en quelque sorte arrêtée, stoppée, rompue. La chaîne du péché est rompue. Luc 1, 35, C'est l'ange qui parle à Marie et qui lui dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Le Saint-Enfant, il y a encore là un acte de la sainteté de Dieu. Par la conception du Saint-Esprit, l'enfant est né saint, exempt de péché. Pleinement homme, aussi facile de nous rappeler que, comme nous, Jésus a connu la faiblesse et les limites attribuées aux hommes. Et c'est peut-être ce qu'on connaît le plus dans la vie de Jésus, ce qu'on a pu lire qu'il avait vécu. Mais c'est important de se rappeler que Jésus avait comme nous un corps humain. Il a connu donc les exigences et les limites de l'homme. La Bible atteste de cette période de sa vie. Né bébé, il lui a fallu grandir. Il lui a fallu se nourrir, dormir, se reposer, souffrir. Il a comme nous eu soif. Il a comme nous été fatigué. Il est aussi ressuscité physiquement et son corps physique est monté au ciel. Jésus avait aussi comme nous un esprit humain. Luc 2, 52, Jésus croyait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. On pourrait le dire pour chacun de nous dans notre cheminement. Il a appris de Dieu l'obéissance jusqu'au bout, comme les enfants apprennent l'obéissance de leurs parents. Mais chose curieuse, aussi, ça m'a interpellé, comme tout homme, il ne connaissait pas non plus le jour de la fin du monde. Marc 13, 32, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ce sont les paroles du Christ lui-même. Jésus avait comme nous également des émotions. Respect, étonnement, par exemple, devant la foi du centenier, où il dit « J'ai jamais vu une personne qui avait une si grande foi. » Tristesse du Christ. On arrive au moment de Pâques, le temps de la passion. Pleurs de douleur, pleurs de compassion devant les contacts humains et pour l'ensemble de l'humanité. Anxiété. Et peut-être là, il nous rejoint encore plus dans notre anxiété à nous, dans notre monde actuel. Jean 12, 27. « Maintenant, mon âme est troublée, dit Christ. Père, délivre-moi de cette heure. » Et on a une espèce de point d'interrogation là, et puis de point de suspension. On a l'impression qu'il y a un silence, un temps de prière là, et puis ça se termine par « Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Jean 13, 21. « Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. » Et il dit expressément, il s'adresse à ses disciples, « en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Et encore, moment de tristesse, cette phrase qui est terrible du Christ, où il dit, alors qu'il est seul, seul parce qu'il sent que l'heure arrive, « mon âme est triste jusqu'à la mort. » On peut l'étudier dans beaucoup de sens, cette phrase, mais mon âme est triste jusqu'à la mort. Oui, jusqu'à la mort, mais elle est triste d'abord, son âme. Par contre, nous l'avons déjà dit, Jésus, homme, n'a pas connu le péché. Hébreux 4, 15 l'atteste, nous n'avons pas un sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans connaître le péché. Satan n'a pas pu le tenter au point de le faire pécher. Jésus-Christ est toujours resté dans la même ligne de sainteté, faisant la volonté de son Père. Et il l'a dit, il l'a répété, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je sais, je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jésus est venu sur la terre, homme, est resté homme sur la terre et sera toujours homme. C'est en homme qu'il est crucifié par la justice des hommes. Mais si c'était en homme, en Dieu, qu'il était crucifié, Dieu serait mort, simplement. Et Dieu n'est pas mort. Jésus, homme, a été crucifié, a payé pour nos fautes, a payé pour la rémission de nos péchés. C'est le Jésus-Christ homme qui est mort à la croix et qui, en ressuscitant, ressuscite premier-né des ressuscités. Et il nous précède. C'est bien un homme qui l'est ressuscité. Luc 24, 39, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. C'est un homme qui l'est monté au ciel, et les personnes qui étaient témoins de son ascension étaient là, et deux anges apparaissent. Ils étaient troublés, deux anges apparaissent et leur disent, « Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel, reviendra sous la même apparence humaine. » Toutes les apparitions du Christ, ultérieurement à Étienne, à Paul, à Jean et à Thomas, si près de nous, le présentent dans son humanité totale. Le Christ était totalement Dieu, mais il est venu totalement homme pour pouvoir nous rejoindre et pour pouvoir assurer ce sacrifice pour lequel son Père l'avait envoyé. Pour conclure ce premier pan sur le Christ, sur Jésus-Christ, on pourrait dire que le plan créateur, le plan du Dieu créateur pour racheter l'homme s'inscrit précisément et longuement dans toute l'histoire de l'Écriture, dans tout le temps depuis la création, et que toute l'Écriture nous le rappelle et nous cible. Et comme disait Philippe tout à l'heure, j'aimais bien cette image, nous amène vers un zoom qui petit à petit nous amène au Christ et à la croix. C'est magnifique pour le temps de Pâques. Jésus-Christ, venu de Dieu sur terre, homme parmi les hommes, a pleinement accompli ce plan, est mort, est ressuscité, mais il continue à être notre frère et à être pleinement homme dans sa nature glorifiée. Et j'aimerais terminer avec ce verset de Romains 8, le verset 16. L'Esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfant est donc héritier. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ, puisqu'ayant part à ses souffrances, nous aurons aussi part à sa gloire. Amen. Je vous invite à un petit temps de silence et de méditation. Si une ou deux personnes veulent prier, qu'elles le fassent tout à fait librement. J'aimerais partager avec vous les annonces concernant les activités de l'Église cette semaine, qui vont s'afficher, je pense. Voilà. Juste avant lundi, vous annoncez un concert ce soir à 17h à la salle de la Madeleine, concert de Pâques avec un orchestre philharmonique, et c'est organisé par l'Église internationale de Genève. C'est à 17h à l'église de la Madeleine et c'est gratuit. Lundi 2 avril, activité de cette semaine, 19h30, réunion de la commission travaux. Mardi 3 avril, 14h30, étude biblique des aînés, ici. 19h30, réunion de nouveau de la commission travaux et du conseil. Mercredi 20h30, chorale. Jeudi 5 avril 20h30, étude biblique. Et puis samedi, annonce spéciale pour le groupe de jeunes. Rendez-vous 5h30 du matin. Groupe de jeunes, départ pour Disneyland. Important. Si vous avez des renseignements à demander, Anne-Laure et Aurélie sont là, je crois. Bon, c'était un poisson d'avril, allez. Ah, il y en a qui sont déçus, mais c'est incroyable. Hein.
Nous, on avait peur pour le budget. C'est pas dans le budget.
Voilà. Le vœu qu'on peut faire, c'est que les petits poissons qu'on a derrière nos voitures ne soient pas des poissons d'avril, mais soient des vrais poissons qui nous rappellent les premiers temps aussi du Christ. Dimanche, notre culte ici à 10h30. Je voudrais vous donner des nouvelles de personnes qui sont souffrantes. Robbie a été hospitalisé cette semaine, vous l'avez su. Il est rentré ce week-end. Il sera opéré après Pâques pour un problème de prostate. On veut vraiment penser à Robbie et à Hélène. C'est pas facile, ils n'ont pas non plus une maison qui est très facile pour quelqu'un qui est très pratique, pour quelqu'un qui est hospitalisé. On veut aussi vraiment, vraiment penser à eux. Pensez aussi à notre frère Abel, qui est aussi souffrant. Pensez à Anne-Lise, qui est là, mais qui souffre aussi et qui aura aussi de nouveau des examens, toujours pour ses dents. Continuons à penser, on a beaucoup de personnes âgées qui prennent vraiment de l'âge, du grand âge, et qui ont pas mal de bobos. Denis et Gilberte sont souvent aussi pas là. Et Denis répète souvent que c'est pas parce qu'ils n'aiment pas l'église, mais c'est que physiquement c'est difficile aussi. Ils ont du mal à se déplacer aussi, donc pensons vraiment à ces personnes-là. Pensons à notre sœur Hélène qui est là aussi et qui se rétablit. Et puis ça me fait une transition pour parler de Brillant. Non, Brillant, il dit non, mais si. Brillant part cette semaine au Bénin. Il m'a dit que ça sera la dernière fois que j'irai au Bénin. Mais on espère que ce n'est pas un poisson d'avril. Non, Brillant aimerait retourner au Bénin. Il part cette semaine donc au Bénin. Et j'aimerais vraiment qu'on pense à lui et qu'on pense pour que Dieu le garde et le bénisse pendant ce voyage. Peut-être c'est le dernier, Brillant, tu le sais. Peut-être c'est le dernier voyage au Bénin. Mais on veut qu'il soit un voyage béni. Et j'aimerais te laisser ces versets qu'on trouve dans le psaume 121. Tu le sais, c'est une chose que tu sais, que tu as expérimenté toute ta vie. L'Éternel est celui qui te garde. Psaume 121:5. Et puis la fin qui est juste pour ton voyage au Bénin. Là. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Alors, c'est peut-être pour l'avion, c'est peut-être pour le taxi-brousse, je ne sais pas. Mais enfin, c'est pour tous les départs qu'il y aura et toutes les arrivées qu'il y aura, dès maintenant et à toujours. On veut vraiment que Dieu te bénisse dans ce voyage. Il y a aussi un voyage aussi après en Tunisie, je crois. Vraiment que Dieu te garde et que Dieu vous garde et que Dieu garde Hélène aussi pendant ce temps-là. Et on veut aussi penser beaucoup à toi, Hélène, pendant ce temps-là. Voilà, bon voyage en tout cas, Brillant. Voilà, j'espère que je n'ai pas oublié d'autres annonces. Oui, Brillant. En Palestine, dimanche. Alors, le psaume 121 est aussi valable pour la Palestine. Il est pour tout le globe entier. Dieu vous bénisse dans ses voyages. Je vous invite à vous lever. Je vous lirai encore deux versets. À la fin de l'épître que Paul envoie aux Romains, il y a cette bénédiction qui est aussi pour nous, pour tous les jours, où que nous soyons, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous tout ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun. Que Dieu vous bénisse.